Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série concernant les anges qui nous servent. Nous arrivons à l'étude numéro 5. Nous aurons trois petits sujets, tels que, premièrement, l'ange qui guérit, c'est l'ange Raphaël. Deuxièmement, l'ange qui atténue l'ardeur du feu. Troisièmement, l'ange qui délivre de la fosse au lion. Tout d'abord, pour qu'il n'y ait pas de polémique inutile, il est vrai que toutes nos Bibles ne contiennent pas certains livres apocryphes. J'ai chez moi les deux Bibles suivantes, la Bible de l'abbé Crampon et la Bible des Maredzou. Bien sûr que d'autres Bibles encore contiennent donc certains livres qui ne sont pas dans nos Bibles ordinaires. Mais n'en faisons pas une polémique, je crois que vous comprendrez que ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Maintenant, je voudrais commencer par l'ange qui guérit. C'est le livre de Tobie, qui, comme je viens de le dire, qui ne figure pas dans la plupart de nos Bibles. Le livre de Tobie. Dans l'histoire de Tobit, il y a un ange qui joue un rôle très important. Tobit envoie son fils Tobie chez Gabaël, un de ses parents, pour essayer de récupérer l'argent qui lui a été remis en dépôt. Tobie se cherche un compagnon de voyage et rencontre Raphaël. En prenant congé d'eux, Tobie leur souhaite d'être accompagné par un ange du Seigneur, or il ne sait pas que Raphaël est lui-même un ange. Le nom de Raphaël signifie « Dieu guérit ». Et de fait, l'histoire de Tobit raconte deux cas de guérison. La première fois, Raphaël guérit par ses indications Sarah, fille de Raguel. Cette Sarah avait déjà été mariée avec 7 hommes qui étaient tous morts dans la chambre des noces. Tobie, chapitre 6, verset 14. Apparemment, elle n'était pas capable d'une relation amoureuse avec un homme, car un démon l'aimait et tuait tous ses maris. Ce démon, c'est l'image d'un complexe qu'elle avait en face des hommes. À l'évidence, elle voulait absolument quelqu'un, mais elle ne pouvait pas le supporter ni s'empêcher de le tuer dès qu'il s'approchait trop d'elle. Voyez-vous, les complexes de ce genre ne sont pas rares, même aujourd'hui, quand une femme est possédée, je dis bien possédé par un démon tueur d'hommes, alors aucun homme ne résiste longtemps auprès d'elle. Tous sont condamnés à périr. Avant que vous pensiez tout de suite que ce sont des histoires qui n'existent pas, si vous possédez Internet, vous pouvez trouver sur Internet 3 fois W, donc www, ensuite Bible explique en un seul mot, .ch. Et je vous conseille de chercher pour trouver tout ce qui est expliqué. Il y a des très nombreux CD sur la démonologie, ainsi que sur le ciel et l'enfer. Et si cela vous est possible, je vous conseille de chercher et d'écouter le ou les CD concernant le fabuleux, authentique témoignage de Marietta. Mais continuons notre étude. Toby a donc peur de prendre Sarah pour femme, car il pourrait bien subir à son tour le même sort. Mais Raphaël l'encourage. Toby doit brûler sur les braises de l'encens un peu du cœur et du foie d'un poisson qu'ils ont pris en chemin. L'odeur en chassera le démon. Or le cœur et le foie sont le siège des sentiments et de l'amour, et ce n'est pas sans raison que l'on parle d'un cœur brisé, ou on dit que quelqu'un voit ou quelqu'un vous échauffe carrément la bile. Donc vous met en colère. Pour devenir une force de guérison, l'amour doit donc être transformé. En effet, il existe aussi un amour possessif, mortifère, qui pour devenir un véritable amour, doit passer par l'ardeur du feu. Le démon qui rend la jeune fille incapable de se marier, ce peut aussi être un père, et oui, un père qui la possède au point qu'il lui est impossible de s'engager vraiment avec un autre homme. Ce peut être aussi la peur de la sexualité, une peur qui tue quand un homme voudrait avoir une relation sexuelle avec elle. Mais revenons à notre ange Raphaël. L'ange guérit la jeune fille en indiquant à Toby tout simplement la bonne manière de l'approcher. Et cette guérison permet donc aux deux jeunes gens de vivre un amour heureux. Une deuxième fois, l'intervention de Raphaël opère une guérison. Au retour du voyage, il guérit Tobit de sa cécité. Il ordonne à Toby d'appliquer sur l'œil de son père le fiel du poisson. La drogue mordra et lui tirera des yeux une petite peau blanche. Et ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière. Toby, chapitre 11, verset 8. La bile, c'est l'image de l'agressivité. Ce que montre cette histoire, c'est que par l'agressivité, le fils doit prendre ses distances face à son père. Il doit sortir de la symbiose, faute de quoi le père resterait aveugle. Pour que le père ait lui aussi vraiment accès à lui-même, il faut que le fils devienne ce qu'il est en vérité en prenant une saine distance en face de lui. Il faut qu'il lui frotte les yeux avec ce fiel qui fait mal, qu'il lui ouvre ainsi les yeux et lui montre son fils tel qu'il est en réalité. La cécité de Tobit est assurément liée à sa spiritualité trop étroite, car il est fidèle à la loi. Mais il ne se rend pas compte qu'il enténèbre de plus en plus sa propre vie à force de vouloir observer méticuleusement toutes les prescriptions. Si les lois ont pour moi plus d'importance que la vie, eh bien, je retourne mon agressivité contre moi-même. En frottant les yeux de son père avec le fiel, Toby prend donc un contact positif avec sa propre agressivité qui cesse maintenant de contaminer sa piété. Plein de joie, le père se jette au cou de son fils et lui dit en pleurant « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni tous ses saints anges, béni son grand nom dans tous les siècles, parce qu'il m'avait frappé et qu'il a eu pitié de moi et que je vois mon fils Tobie maintenant. » Chapitre 11, versets 14 et 15. Ici, Raphaël n'est pas seulement l'ange qui guérit tous les maux, par exemple ceux de Sarah la possédée et de Tobit l'aveugle, mais encore celui qui rend possible des relations salvatrices. Il initie donc le jeune Toby à l'art de vivre et d'aimer. Et c'est grâce à l'ange Raphaël que Toby devient capable d'aimer sa femme sans être tué par elle et qu'il apprend à aimer son père sans se laisser déterminer par lui. Ces deux variantes de l'amour ne sont pas tellement faciles à apprendre, car dans les deux cas, ce ne sont pas les complications qui manquent. La relation amoureuse entre l'homme et la femme peut se changer en une lutte mortelle pour le pouvoir, et l'amour des parents peut devenir un obstacle à la vie si la prise de distance n'a pas lieu. L'histoire de Tobit connaît donc les difficultés que présente l'apprentissage de ces deux façons d'aimer et elle renferme la promesse qu'un ange nous accompagnera nous aussi pour nous initier à l'art d'aimer et de vivre. Souvent, les parents sont inquiets. Inquiet quand leur fils leur présente l'ami qu'il veut épouser. Et il considère avec suspicion cet homme que leur fille a élu. Il est réconfortant de savoir qu'il y a là encore un ange qui accompagne le fils ou la fille. La confiance en l'ange qui guident leurs enfants sur ce chemin difficile, déchargent les parents de leurs soucis souvent excessifs. L'ange veillera à ce que la séparation d'avec les parents se passe bien et permettra que se réalise l'amour entre les époux. À vrai dire, il n'est pas rare qu'après coup, les parents aient eu raison de sentir que cet homme ne convenait pas tellement à leur fille et que cette femme allait déformer la personnalité de leur fils et lui briser peut-être l'échine. Donc, la foi en l'ange ne guérit pas toutes les blessures qui peuvent être reçues dans ce domaine, car parfois, les enfants sont obligés de faire l'expérience du mauvais choix et de l'échec pour devenir ensuite capables d'une relation saine. Si les parents s'immiscient à l'excès dans le choix du partenaire, ils ne font que conforter davantage leurs fils et leurs filles dans le choix qu'ils ont fait, même si tout au fond de leur cœur, ils en doutent peut-être. Cela pour ne pas apparaître comme immatures aux yeux de leurs parents, alors ils refoulent tous leurs doutes et tiennent à montrer qu'ils savent eux-mêmes ce qui est bon pour eux. Et quand une relation se solde par un échec, eh bien un ange n'en est que plus nécessaire aux côtés du fils ou de la fille pour initier par ce détour à l'art d'aimer. Donc dans l'histoire de Raphaël, l'ange ne s'est révélé comme tel que à la fin. De la même façon, ce sont souvent des amis qui se tiendront aux côtés des enfants et les feront avancer sur leur chemin, même s'il paraît d'abord sans issue. Parfois aussi, l'ange se manifestera dans le flair psychologique du fils ou de la fille, ce flair, ce sentiment qui ne trompe pas, finira par s'imposer même si le fils est d'abord aveugle ou si la fille se laisse exploiter sans mesure par celui qu'elle aime. Tout ce que les parents peuvent objecter ne sert à rien. Ils en sont réduits à s'en remettre à l'ange qui œuvre dans le cœur de leurs enfants pour leur faire don d'un amour heureux au bout d'un chemin aussi long que celui de Tobie. L'archange Raphaël établit donc aussi des relations parentales saines. Tobie doit suivre d'abord un chemin long et aventureux en pays étranger avant d'entrer dans un rapport renouvelé avec son père. Ce chemin, il le suit certes pour le compte et sur la demande de son père, mais une fois qu'il est engagé, celui-ci n'a plus d'influence sur lui. Tobie se met donc à l'école de l'ange Raphaël, qui, lui, le protège de dangers qui le menacent. Il l'accompagne de telle façon que Tobie se sait en quelque sorte environné par la présence de Dieu, oui, même en pays étranger. Tobie impose à son père une attente plus longue que celui-ci ne l'avait prévue, et lorsqu'il le retrouve, il lui impose aussi la brûlure du fiel. Ainsi, sa relation au père a changé. Il n'est plus simplement le fils obéissant, car il écoute sa voix intérieure, cette voix que lui a donnée l'ange, qui lui montre maintenant le chemin, et leur relation aux parents devient tout autre. Ils peuvent désormais les adorer en adultes, satisfaits des bons rapports qu'ils ont reçus d'eux, mais ayant pris une saine distance en face de ce qu'il y avait chez eux de dur et d'aveugle. Les enfants ne sont plus déterminés par la voix des parents, intériorisés dans le sur-moi, mais maintenant par leur propre voix intérieure. Chers amis, deuxième moment, nous avons l'ange qui atténue l'ardeur du feu. Dans le livre de Daniel, le livre de Daniel se trouve dans toutes les Bibles, y compris ceux que je vous ai mentionnés, tels que la Bible de l'abbé Crampon, des moines de Maritsou, etc. Donc, le livre de Daniel nous rapporte l'histoire des trois jeunes gens qui sont jetés dans la fournaise du feu ardent. En effet, trois jeunes juifs se refusent carrément à adorer la statue d'or que a fait ériger le roi Nebuchadnezzar on dit aussi Nabuchodonosor. Ils sont alors ligotés et précipités dans la fournaise. Les flammes qui en jaillissent sont si fortes qu'elles tuent carrément les Chaldéens qui les ont jetés, qui ont jeté les jeunes juifs dans la fournaise. Mais l'ange du Seigneur est descendu. Il est descendu dans la fournaise auprès de, eh bien, de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Il a repoussé au dehors la flamme du feu et il leur a soufflé au milieu de la fournaise comme une sorte de fraîcheur, une brise fraîche et de rosée, si bien que le feu ne les a pas touchés, ne les toucha aucunement et ne leur causa ni douleur ni angoisse. Daniel, chapitre 3, versets 24 à 28. Le feu a des significations très diverses. Il purifie et rénove. Il peut aussi détruire. Au sortir du feu, alors là, tout être a la possibilité de renaître à un niveau supérieur, on peut dire. Le feu est parfois aussi un symbole de passion et d'amour. Il peut présenter une grande valeur. Ainsi, les Germains ne devaient jamais laisser s'éteindre le feu de leur foyer. Le feu vient du ciel. Prométhée l'avait dérobé aux dieux pour en faire présent aux hommes. Mais le feu peut être aussi l'image du mal, du démoniaque, tout dévoré et de tout détruire, tel que c'est le cas actuellement au Canada, ce feu de forêt gigantesque. Il a anéanti des villes entières. Il brûle en enfer pour le châtiment éternel des damnés. Ainsi, le feu devient-il l'image même du tourment, de la souffrance qui brûle comme lui. Alors le roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar fait jeter les jeunes gens dans la fournaise pour qu'ils y brûlent. Et ici le feu signifie un danger de mort. On peut se consumer au feu de la passion, des émotions qui troublent la pensée, à la puberté et dans le premier amour. Les êtres jeunes traversent de telles expériences. Dans notre histoire, le feu est aussi l'image de l'hostilité agressive du roi. De lui, il est dit, alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère et l'expression de son visage changea. Il donna ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus puissamment que d'ordinaire. Daniel chapitre 3, verset 19. C'est dans le feu de la haine que les jeunes gens sont jetés. Ils s'y sont jetés pour avoir refusé l'hommage exigé par le roi. Leur refus d'admirer un être et de lui rendre des honneurs quasiment divins, ou de répondre à son amour, peut susciter une telle haine ardente chez un homme qui est possédé par la passion du pouvoir. Or, le message du prophète Daniel est que ces jeunes gens ne sont pas abandonnés et livrés sans aucune défense au feu de la colère, mais qu'un ange descend avec eux dans la fournaise et en atténue la chaleur brûlante. La personne qui est exposée à la haine d'autrui a donc besoin d'un ange pour l'en protéger en s'interposant afin qu'elle ne puisse pas l'atteindre. Et qui se voit confronté au feu de ses propres passions a donc besoin d'un accompagnateur qui le comprenne et qui l'assiste. Celui-ci ne doit pas avoir peur du feu de cette passion-là. Il doit descendre dans la fournaise comme l'a fait l'ange. Un bon accompagnateur regarde en face les passions des jeunes gens avec eux et sans portée de jugement. Il ne veut pas se tenir à distance de ce feu en leur imposant des prescriptions rigides ou en les menaçant du feu de l'enfer s'ils ne maîtrisent pas leur passion. Alors, il a de la compréhension, pour ce feu qui brûle en eux, mais en même temps, il leur montre les moyens de le négocier sans être brûlé par lui. Alors, l'ange ne se manifeste pas seulement dans ceux qui nous accompagnent quand nous sommes visités par le feu des passions. Tout être humain a son ange, c'est vrai. Il y a en lui quelque chose qui descend avec lui dans le feu dévorant, qui le préserve de ses flammes intérieures. Tout être a en lui-même un lieu d'où il peut regarder ce feu sans s'y brûler. Ce lieu d'où il nous est possible d'évaluer ce qui se passe en nous, on pourrait l'appeler la conscience morale, ou bien il s'agit de notre soi profond, cette image divine inaltérée en nous qui sait percevoir ce qui se passe dans notre psychisme sans en être déterminé. Donc l'histoire, elle nous dit que c'est un ange qui nous accompagne quand nous sommes précipités dans le feu de nos émotions. Il transforme ce feu de telle façon qu'il nous apparaît comme un vent frais qui est chargé de rosée. Au cœur même du feu, il y a en nous un lieu qui en est protégé. Il y a un espace de silence et de paix, où l'ange est avec nous, oui, où Dieu lui-même demeure en nous. Les très jeunes gens ne sont donc pas les seuls à être ainsi jetés dans la fournaise. Bien des adultes vivent aussi de telles terribles situations. Par exemple, voici un homme d'un certain âge qui s'éprend d'une jeune femme. Il ne se connaît plus lui-même. Il ne voit plus d'autres issues que le suicide. Mais voilà qu'un ange l'en protège. Il entre dans le feu et le métamorphose. Ou bien nous voyons une femme, ça existe, qui a fait un très bon mariage. Mais hélas, un jour, elle tombe sur un jeune homme que tous considèrent comme un propre à rien, un parasite. Et elle lui est livrée sans aucune défense. Elle jette tout son existence par-dessus bord. Elle quitte son mari vertueux, correct et honnête pour être toute à ce jeune homme qui par-dessus le marché, écoutez bien, a fini par l'exploiter. Vous savez ce que ça veut dire. C'est que le feu s'est emparé d'elle à un tel point qu'elle n'est plus même capable de penser clairement. Or, son mari et les amis de la famille sont là. Ils sont là, bien sûr, décontenancés. Et ils ne parviennent pas bien à expliquer tout ce qui se passe. Et on les comprend. Voyez-vous, la fournaise représente aussi de nombreuses situations où nous met la vie. Par exemple, dans l'incendie d'une maison, et au Canada, avec ce feu terrible, il y a des centaines de maisons qui ont été brûlées. Un courageux pompier va peut-être risquer sa vie pour sauver un enfant ou un vieillard. Dans son entreprise, on voit un homme qui se trouve pris sous le feu des critiques. Il est abandonné de tous. Mais voilà que, tout à coup, un de ses collaborateurs se place devant lui et le protège en quelque sorte de cette catastrophe. Il y a aussi les nombreux conflits entre des groupes qui se haïssent et déclenchent un vaste incendie, comme dans l'ancienne Yougoslavie, au Rwanda, au Burundi, la Serbie et j'en passe. Souvent, nous nous contentons de regarder de l'extérieur tous les êtres que consume le feu de la haine. Mais toujours, il se trouve des anges pour se risquer dans ce feu, pour tenter d'apaiser ces vagues passionnelles et faire souffler la brise rafraîchissante de leur amour, des êtres, l'amour de l'autre, qui ne se laisse pas contaminer par le feu de la haine. Par le pardon et la miséricorde, le feu peut perdre son pouvoir et il est éteint peu à peu par les cœurs qui sont restés purs. Alléluia. Troisièmement, nous avons l'ange qui délivre de la fosse au lion. Cette histoire aussi, elle se trouve dans toutes les Bibles, y compris certaines que je vous ai mentionnées. De même que les trois jeunes gens sont jetés dans la fournaise, Daniel est maintenant accusé par des fonctionnaires royaux d'avoir violé la loi et d'avoir adoré son Dieu et non pas le roi. La différence, c'est que cette fois, le roi des Perses, Darius, est bien disposé envers Daniel, envers ce juif qui a été déporté. Mais voilà que les autres rois, les satrapes, sont jaloux de Daniel, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Lisez Daniel chapitre 6, verset 4. Darius est alors tiraillé entre son affection pour Daniel et son grand engagement envers sa propre loi. Il voudrait bien, ô et combien, ils voudraient sauver Daniel. Mais les satrapes lui rappellent l'intangible loi des Mèdes et des Perses. Alors il doit céder et il doit faire jeter Daniel dans la fosse aux lions en souhaitant que son Dieu à Daniel puisse le sauver. Et tout au long de la nuit, Darius ne peut trouver le sommeil et de bon matin, il se rend à la fosse aux lions et il appelle Daniel. Daniel lui répond, « Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé totalement innocent devant Dieu et devant toi aussi, ô roi. Je suis absolument sans faute. » Daniel chapitre 6, verset 23. Le lion est un peu considéré comme étant le roi des animaux, c'est vrai. Il représente à la fois la puissance et la justice et figure souvent à côté du trône des dieux et des souverains. Il est aussi l'image du Christ, que l'on appelle parfois le lion de Juda, mais il peut également être celle du diable, parcourant le monde. Il est appelé lion rugissant et cherchant qui dévorer. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Il est encore considéré comme étant le symbole de puissance menaçante, maléfique, porteuse de châtiment, et comme celui d'une sauvagerie que rien n'a encore adoucie, et de pulsions agressives et incontrôlées. Alors Daniel est obligé de passer toute une nuit dans la fosse aux lions. Une femme a un jour raconté qu'elle éprouvait parfois en face de son mari, qui est un terrible alcoolique et qui faisait de sa vie carrément un enfer, elle a reçu une telle haine en elle que parfois elle aurait voulu tuer son mari. Mais elle avait peur de ses pulsions agressives. Un homme a dit un jour de n'être plus lui-même à la vue d'un certain collègue qui l'a calomnié et avait intrigué contre lui auprès de la direction, alors des pulsions agressives se sont emparées de lui sans qu'il puisse s'en défendre et menaçaient même de le submerger. Quand les enfants manifestent de l'agressivité, on les en corrige souvent par la violence. Alors ils refoulent leur énergie agressive et commencent à s'adapter et ils deviennent soi-disant dociles. Mais en réalité, ils retournent simplement leur agressivité contre eux-mêmes et ils deviennent dépressifs, asthéniques, usant toute leur énergie à verrouiller leur potentiel défensif. J'ai connu cela. D'autres enfants semblent être livrés sans recours à leurs pulsions agressives. Ils se roulent par terre en criant jusqu'à s'étouffer. Plus les parents sont alors pétrifiés d'angoisse, plus les manifestations agressives se déchaînent. Il faut donc qu'un ange descende en l'enfant pour le protéger contre sa fureur destructrice. Il faut que les parents aient assez de confiance pour affronter sans angoisse les agressions des enfants et pouvoir ainsi les transformer. Oui, Dieu envoie son ange à Daniel dans la fosse aux lions pour leur fermer la gueule. Et quand les anges étendent sur nous leurs mains protectrices, eh bien, nous prenons une distance face à nos pulsions agressives et elles cessent d'être des gueules ouvertes qui sont prêtes à nous mordre. Elles n'impriment plus leurs morsures dans notre âme et nous vivons à côté d'elles et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup d'histoires de certains moines ont raconté, et c'est vrai, qu'ils avaient même réussi à apprivoiser un lion. Quand un être humain apprend à maîtriser ainsi son agressivité, et quand celle-ci est mise à son service au lieu de le dominer, les animaux eux-mêmes le sentent et vivent en paix avec lui. Il y a l'histoire d'un chasseur qui était évidemment un chasseur de trophées, mais un jour il a totalement changé 180 degrés. Un jour il a vu un lion au pied d'un arbre, qui gémissait terriblement, et il avait une épine très importante, un peu comme une flèche, qui avait traversé, on ne sait pas comment, sa patte de devant. Ça devait être terriblement douloureux. Surtout, ça avait commencé à s'infecter, parce que ce n'était pas quelque chose de tout frais. Il a dû souffrir depuis bien de nombreuses heures. Et ce chasseur s'est approché, il avait une trousse médicale avec lui, toujours. Il s'est approché doucement de ce lion qui a compris que l'homme lui voulait du bien, voulait l'aider. On ne sait pas comment ça peut se réaliser. Ça dépasse notre entendement. Toujours est-il que l'homme a pu retirer cette terrible épine du pied de ce lion. Il a pu commencer à désinfecter la plaie, tout un travail, et le lion a fini par lécher son visage de reconnaissance. Et ensuite, le lion l'a suivi longtemps, jusqu'à ce que le chasseur a pu abattre une biche au loin, parce qu'il n'aurait pas pu courir après, pas encore. Et il a pu se nourrir. C'est une histoire authentique qui nous dépasse. Cette énergie puissante, et elle est disponible quand nous en avons besoin. Elle vit en bonne entente avec nous, comme les lions avec Daniel dans la fosse. Daniel est donc convaincu que c'est un ange du Seigneur qui a fermé la gueule des lions. L'ange qui nous procure la présence tutélaire de Dieu apaise l'agressivité qui serait prête à nous dévorer. Daniel peut donc dormir toute la nuit en paix, et cela à côté des lions. Il leur devient en quelque sorte familier. Il ne fait plus que un avec eux, mais cela n'est possible que parce qu'il se sent protégé par l'ange. L'ange nous rend capables d'une relation pacifiée avec les pulsions agressives. Nous ne sommes donc plus fascinés par elles, nous les regardons sans aucune peur et nous observons leur fonctionnement. La nuit que Daniel a passée avec les lions est une image de l'inconscient. C'est dans notre inconscient qu'il se décide si nous serons dévorés par les forces de l'agressivité ou si nous saurons en faire un usage pacifique. Dans nos rêves, eh bien nous trouvons souvent en face de lions qui nous poursuivent. Ils montrent que nous prenons la fuite devant notre propre agressivité et que nous ne l'avons pas encore acceptée. Ou bien nous nous défendons contre des individus hostiles. En rêve, nous faisons souvent l'expérience en nous d'une agressivité sans frein. Et notre inconscient renferme ainsi des tendances meurtrières indomptées, c'est-à-dire des forces, on peut dire, animales. Mais si le rêve nous confronte à nos lions intérieurs, il ne nous laisse pas seuls avec eux, car en effet, c'est l'ange de Dieu qui nous parle en rêve. Il descend avec nous dans la fosse afin que nous ne soyons pas déchiquetés. Le rêve ne nous force pas seulement à regarder en face les lions qui sont en nous, il nous indique aussi un moyen de les apprivoiser et d'intégrer en quelque sorte leur force à notre psychisme. Quand nous méditons en prière devant Dieu sur ces rêves-là, eh bien nous sommes délivrés de la peur de notre agressivité sauvage, car dans la prière, nous pouvons lier conversation avec les lions en nous et nous pouvons leur demander ce qu'ils voudraient nous faire comprendre. Peut-être alors découvrirons-nous qu'ils cherchent à nous guérir, qu'ils nous protègent contre des forces hostiles qui veulent nous nuire par envie. Telle est donc l'expérience de Daniel. Et quand il est délivré de la fosse au lion, croyez-le, c'est écrit, ses accusateurs, ils sont jetés à leur tour. Et avant même, paraît-il, qu'ils ont atteint le fond de la fosse, les lions s'étaient emparés d'eux et leur avaient broyé les os. Chapitre 6 de Daniel, verset 25. Nous terminons. L'ange qui était donc auprès de Daniel ou dans son cœur l'a carrément protégé des lions. Et par la suite, Daniel est resté bien en cour auprès du roi Darius, celui qui se fie à son ange et ne fixe pas un regard épouvanté sur les griffes des lions, suivra son chemin en sécurité sous la protection de Dieu, si nombreux que puissent même être les envieux et les jaloux qui s'en prennent à lui, il ne subira aucun dommage. Tel est donc le message réconfortant de cette histoire d'ange. Amen. chers amis, nous allons terminer cette étude par la prière. Je voudrais vous dire une strophe d'un cantique ancien avant la prière. Brillante étoile du matin, accorde-nous un jour serein, un jour de paix, de grâce, comme une aurore dans nos cœurs. Répands tes divines splendeurs et ta douce efficace. Agneau, flambeau de ma vie, je te prie, viens, éclaire tous mes pas dans ta lumière. Prions. Ô Dieu notre Père, apprends-nous à répandre nos cœurs devant toi, à t'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton saint nom, à t'apporter chaque jour nos difficultés, nos faiblesses, et à chercher auprès de toi seul le secours et la force. Préserve-nous, Seigneur, de nous confier en nous-mêmes ou de nous appuyer sur le bras de la chair, mais que par une foi vivante, nous nous attachions à toi qui es le rocher de notre cœur et notre partage à toujours. Rends-nous fidèles à chercher le secours toujours présent que tu nous offres, à saisir la main que tu nous tends, afin que, appuyés sur toi, nous puissions traverser toutes les circonstances de la vie, et cela dans la paix et la reconnaissance. Tu sais, Seigneur, ce qui nous attend pendant cette journée. Nous savons une seule chose, c'est que celui qui a donné son Fils nous donnera aussi toutes choses avec lui. C'est que tu veux notre bien, le bien éternel de nos âmes, et que tu fais concourir toutes choses au bien de tous ceux qui t'aiment. Que dans cette pensée, ô Seigneur, nous nous avancions dans la paix, recevant toutes choses de toi et les rapportant toutes à toi. Reçois donc nos actions de grâce et notre adoration. Sanctifie le culte que nous te rendons et que ta grâce et ta paix demeurent avec nous. Tout cela pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Que le Seigneur vous bénisse et à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.